Bonjour à tous et oui, Philippe, édition spéciale jusqu'à 14h. C'est la suite de la journée, le plastique non merci sur France Inter. Il y a des solutions à tous les niveaux. C'est le sous-titre du livre d'un de nos invités, Mathieu Combes, en studio avec nous. Alors au sommaire aujourd'hui, le constat de la pollution en plastique, oui, mais aussi les solutions. Voilà à quoi nous allons travailler jusqu'à 14h. Avec vous, auditeurs de France Inter, le standard vous est ouvert. Vos questions sur cette pollution, vos témoignages, vos idées à vous pour la limiter. 01 45 24 7000. C'est le téléphone sonne à l'heure du déjeuner. À mes côtés, jusqu'à 14h, Mathieu Combes, donc, auteur de ce livre « Survivre au péril plastique », mais aussi Laura Châtel de l'association Zero Waste. Coup de fil tout à l'heure à la navigatrice Hélène MacArthur, un représentant de la plasturgie. Et les initiatives partout en France, nous irons au Sable d'Olonne. Autre personnalité incontournable dans l'heure qui vient, Sandy Dauphin, spécialiste environnement de France Inter, et qui est notamment allé en reportage chez Coca-Cola. 1 milliard de bouteilles en plastique vendues chaque année en France. Le plastique, non merci, ce sera une grande partie de l'antenne jusqu'à 14h. Mais il y aura aussi évidemment les grands titres de l'actualité, les 75 ans du débarquement, les premières cérémonies côté anglais ce matin. Perquisition chez Gérard Collomb, le maire de Lyon, ancien ministre de l'Intérieur. Il est soupçonné de détournement de fonds publics. Les candidats à la succession de Laurent Wauquiez chez Les Républicains, ils doivent promettre de ne pas se présenter à l'Élysée. C'est en tout cas le souhait du patron par intérim Jean Leonetti. L'étude qui rebat les cartes, il est moins cher d'aider financièrement un immigré clandestin à rentrer chez lui que de l'expulser manu militari. Et puis Roland Garros, Djokovic face à l'Allemand Zverev et Dominique Thiem contre le Russe Khachanov. La météo, bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour.
Que nous dit Météo France sur Roland Garros, il risque d'y avoir de la pluie.
Oui, hein. Je suis pas certain que les matchs aillent jusqu'au bout. C'est je suis même ça. Pas sûr qu'ils aillent jouer aujourd'hui. On a déjà 11 départements en vigilance orange pour des orages forts entre les Ardennes, la Lorraine, l'Alsace, la Haute-Saône et le Doubs. On attend une forte activité électrique, de la grêle et même de violentes rafales de vent. Les premiers orages vont se développer à partir de 16 ou 17 heures. D'ici là, le temps sera chaud et plutôt ensoleillé entre le Grand Est et le pourtour méditerranéen avec des maximales allant jusqu'à 33 degrés. Wow. Mais ambiance plus fraîche et plus pluvieuse sur l'ouest avec des pluies régulières. Quelques averses sont aussi attendues sur la façade ouest entre la Bretagne et l'Aquitaine. Et puis les températures dépassent à peine 14 à 20 degrés.
On vous retrouve avant 14h, Sébastien. Le plastique non merci, édition spéciale sur France Inter jusqu'à 14h. C'est parti. Et quelle solution pour survivre à ce péril plastique? Voilà le fil rouge de notre émission spéciale jusqu'à 14h avec vous, auditeurs de France Inter. Et tout de suite au téléphone Coralie. Bonjour Coralie.
Oui, bonjour.
Vous avez 29 ans et vous cherchez à vous débarrasser un peu du plastique, mais c'est pas évident en fait.
Non, c'est pas évident. C'est des réflexes à avoir tous les jours. Nous, ça fait quelques semaines qu'on s'est vraiment lancé dans l'aventure diminuer notre consommation de plastique. Avec mon conjoint, c'est vrai qu'on a commencé par diminuer ça au niveau des coupes, en fait, tous les jours. On a eu la surprise de voir que la grande surface dans laquelle on allait quotidiennement en fait adhère à ce projet et finalement accepte qu'on vienne avec nos tupperwares pour faire nos courses, un rayon vrac. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup diminué là-dessus.
Et qu'est-ce qui est compliqué alors?
Comment?
Qu'est-ce qui est difficile?
Ce qui est difficile, c'est que on a l'habitude de consommer certains produits qui sont emballés, sur-emballés. On pensait pouvoir faire bien les choses, on triait déjà. Mais c'est vrai que quand on a commencé à se lancer dans cette démarche, on s'est renseigné sur les différents types de plastique, sur ce que les logos voulaient dire, et en fait, on s'est retrouvé un peu désappointé de voir que finalement, on n'était pas très bien informé. Et il a fallu mettre en place des choses et donc arrêter les yaourts, par exemple.
Oui.
Et alors prendre des yaourts en verre et plus en plastique, c'est ce qui se recycle pas finalement, ces plastiques-là.
Merci Coralie pour ce témoignage et pour cette honnêteté, faire état des difficultés. Alors d'ailleurs, on va se détendre tout de suite. Hein. J'ai reçu des messages en mode « Oulala, j'utilise encore des cotons-tiges en plastique, on va pas se flageller pour un coton-tige non plus ». Bonjour Mathieu Combes.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Survivre au péril plastique, votre livre aux éditions de l'Échiquier. Ça amène deux questions ce premier témoignage. Il faut changer radicalement notre vie quotidienne, petit 1.
Alors il faut changer beaucoup de choses, mais principalement en fait dans la cuisine, et dans la maison, après, d'accord. Il faut pas se dire qu'il faut bannir tous les plastiques, c'est impossible. Il faut vraiment bannir, on va dire, au maximum l'exposition en contact alimentaire.
Bon, premier point. Deuxième point, elle nous fait part des difficultés, Coralie, pour le simple citoyen qui essaye de faire des efforts et qui manque peut-être de repères, peut-être de labels. C'est exact ou il y a des choses claires qui se développent petit à petit?
Alors c'est encore assez difficile, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de choses qui sont emballées dans du plastique. Mais en fait, il faut revenir à la base, il faut acheter des fruits et légumes non prédécoupé, donc non en barquette. Faut acheter le moins de produits transformés, en fait, et vraiment revenir C'est en lien avec l'alimentation locale et en fait, tout acheter en vrac.
Sandy Dauphin est déjà en studio. Une petite question, allez-y.
Oui, est-ce que c'est pas aussi lié à nos modes de consommation de plus en plus nomades, entre guillemets, c'est-à-dire que les gens consomment en faisant quelque chose, en marchant, en allant au travail, en allant quelque part. Est-ce que ça s'est pas développé?
Si, c'est exactement ça. C'est le premier lien, c'est justement dû à cette alimentation nomade. Il faut savoir que la production de plastique est avant tout due aux emballages.
D'accord.
En Europe, c'est plus de 40% de la production de plastique qui est pour les emballages, et ça augmente.
Donc le sandwich sous vide, typiquement, on y est.
Oui, on y est et on l'arrête.
Dressons le constat, 13h05, il y a beaucoup d'auditeurs qui sont en train de nous écouter, peut-être en mangeant, alors sans paniquer tout le monde, est-ce qu'ils sont en train de manger du plastique, Mathieu Combe?
Alors ça dépend ce qu'ils mangent, mais il doit y avoir un petit peu de microplastique, effectivement. Ça dépend ce qu'ils mangent.
Ça dépend ce qu'ils mangent, oui.
Mais il y en a, effectivement, il y en a dans l'eau du robinet, il y en a dans l'eau, en bouteille, il y en a dans les sodas.
Oui.
On peut en trouver, de toute façon. Dès qu'on cuit quelque chose dans de l'eau, du coup, il y aura un petit peu de microplastique.
Vous nous avez dit que c'était beaucoup les emballages. Encore deux questions sur le constat et puis on passera aux solutions après l'actualité. Les plus gros producteurs et les plus gros secteurs producteurs de plastique, quels sont-ils?
Alors les plus gros producteurs, ça va être la Chine et les États-Unis.
Okay.
Et les plus gros secteurs, c'est les emballages, suivi du bâtiment.
Et la piste la plus importante pour réduire cette pollution, et on détaillera tout cela à partir de 13h20.
C'est d'améliorer la gestion des eaux, des déchets, réduire sa consommation de plastique.
Oui.
Et avoir une responsabilité élargie des producteurs au niveau mondial.
Les eaux, les déchets, réduire sa consommation. On détaillera tout cela avec vous, Mathieu Combe, et avec nos autres invités à partir de 13h20, et avec Malika, qui est déjà au standard et qui nous racontera ses initiatives à elle tout à l'heure. D'abord, les grands titres de l'actualité. Comme il y a trois quarts de siècle, ils vont embarquer à Portsmouth, la Normandie. Quelques 300 vétérans lancent aujourd'hui les célébrations des 75 ans du débarquement. C'est peut-être le dernier grand anniversaire en présence de ces vétérans. Les dirigeants des grands pays occidentaux sont là pour les saluer, de Trump l'américain à Macron le français, en passant par la chancelière allemande Angela Merkel et bien sûr la reine d'Angleterre. Bonjour Antoine Gignot. Antoine, Emmanuel Macron vient de parler.
Absolument, oui. Il est descendu de la scène il y a quelques minutes, Emmanuel Macron, après avoir lu la lettre d'Henri Fertet, jeune résistant de 16 ans, fusillé par les nazis. Avant lui, Donald Trump a salué le sacrifice des combattants avec en arrière-plan des images d'archives de la libération, des bateaux et des avions, comme ce Spitfire qui est à quelques mètres de nous. C'est Lee Tamsin qui s'occupe de les maintenir en état. Rien, dit-il, n'aurait été possible sans les pilotes qui ont décollé dans la nuit du 5 au 6 juin 1944.
Ces gars avaient 19, 20 ou 21 ans entassés dans un cockpit minuscule, avec peut-être 10 heures maximum d'entraînement sur les Spitfire, 22 secondes maximum de munitions, et le gars derrière vous qui veut vous exploser la tête, ils étaient incroyables.
Incroyable, c'est aussi le mot qui revient dans la bouche de John Bauer quand il repense au débarquement. Il avait 21 ans au moment de l'opération, il est arrivé sur les côtes normandes dans un char amphibie.
On a atterri à Gold Beach. J'étais assis dans le tank. Je n'avais qu'une petite ouverture de la taille d'une boîte aux lettres pour voir ce qui se passait. Les plages étaient déjà raisonnablement dégagées quand on est arrivé, mais j'ai été blessé après, à la fin de la bataille de Normandie.
La plupart des soldats de l'unité de John ont disparu à la fin de l'été 44, mais parmi les rescapés du débarquement, certains feront partie du groupe des 300 vétérans qui vont monter cet après-midi sur un navire militaire en direction de la Normandie.
Antoine Gignot en direct de Portsmouth où il y a beaucoup de monde et donc les liaisons sont compliquées, d'où ce reportage au téléphone. Alors les premières prises de position, celle d'Emmanuel Macron, je le disais, il s'est exprimé il y a quelques instants.
Ma lettre va vous causer une grande peine. Mais je vous ai vu si plein de courage que je n'en doute pas, vous voudrez bien encore le garder, ne serait-ce que par amour pour moi. Je meurs pour ma patrie. Je veux une France libre et des Français heureux. Non pas une France orgueilleuse et première nation du monde, mais une France travailleuse, laborieuse et honnête. Que les Français soient heureux. Voilà l'essentiel.
Voilà, Emmanuel Macron qui a lu la lettre d'adieu d'Henri Fertet, jeune homme fusillé à 16 ans pour fait de résistance. Lettre poignante à ses parents que vient de lire le président de la République. L'actualité en Europe, c'est la procédure de déficit excessif lancée par Bruxelles contre l'Italie. La tension risque d'être grande entre Bruxelles et Rome dans les jours et les semaines à venir. Et au Danemark, les élections législatives aujourd'hui, les sociaux-démocrates sont favoris. Gérard Collomb, le maire de Lyon, ancien ministre de l'Intérieur, a-t-il fait bénéficier son ancienne compagne d'emplois fictifs à la mairie pendant 20 ans? Une enquête préliminaire est ouverte par le parquet national financier. On y revient avec Corinne Audouin dans quelques minutes. D'abord, c'est la première fois qu'on chiffre les différentes politiques possibles de reconduite, expulsion des immigrés en situation irrégulière. Un député En Marche, un député de droite, Les Républicains, ont mené ce calcul. Et ce constat surprendra peut-être Thibault Lefèvre. Il est moins cher d'inciter financièrement les immigrés irréguliers à partir que de les expulser, Manu Militari.
Oui, 14 000 euros pour le coût d'un éloignement forcé, 6 fois moins pour un éloignement aidé. Et pourtant, la France expulse dans 70 à 80% des cas. Et ça te coûte donc cher, 1,5 milliard d'euros l'année dernière. Jean-Noël Barrot est économiste, il est député Modem des Yvelines, co-auteur du rapport. Et pour lui, chiffre à l'appui, il faut clairement inverser la tendance. Pour être clair, augmenter le montant de l'aide au retour, comprise aujourd'hui entre 300 et 650 euros.
Le montant de l'aide qui est donné pour les personnes qui retournent dans leur pays a bien un effet déclencheur très significatif sur la décision du retour. Et nous recommandons qu'il puisse être ciblé en priorité sur les ressortissants de pays qui sont soumis à un visa pour entrer sur le territoire français. Les pays du Moyen-Orient, les pays d'Afrique, ce sont des personnes qui sont plus nombreuses à être sur le territoire français en situation régulière. Ce sont aussi souvent des personnes pour lesquelles le retour dans le pays d'origine est plus compliqué, à la fois pour des raisons financières, mais aussi culturelles. Et donc, l'aide doit leur être destinée en priorité.
Sur 110 000 interpellations l'année dernière, 95 000 personnes venaient de pays soumis à visa. Aujourd'hui, l'aide au retour concerne pour l'essentiel les pays d'Europe de l'Est.
Merci Thibault Lefèvre. Et donc cette information, Gérard Collomb, maire de Lyon, ancien ministre de l'Intérieur. Question, a-t-il fait bénéficier son ancienne compagne d'emploi fictif à la mairie pendant 20 ans? Une enquête préliminaire est donc ouverte par le parquet national financier. C'est le Canard Enchaîné qui a sorti l'information ce matin. Bonjour Corinne Audouin.
Bonjour Bruno.
Des perquisitions ont eu lieu chez Gérard Collomb ce matin.
Oui, des perquisitions en cours selon nos informations au domicile du maire de Lyon ainsi qu'à la mairie. Le parquet national financier enquête sur des soupçons de détournement de fonds publics. Tout est parti d'un rapport de la Chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes qui s'est penché sur la gestion de la ville de Lyon. Ce que les rapporteurs ont découvert, ce sont des anomalies dans la rémunération de l'ex-compagne de Gérard Collomb. Myriam Nourry, embauchée en 95, quand Gérard Collomb conquiert trois arrondissements de Lyon, a occupé divers emplois à la mairie depuis 25 ans. La période visée par l'enquête, ce sont les années 2009-2018. Selon la Cour régionale des comptes, citée par le Canard Enchaîné, Myriam Nourry a bénéficié d'une rémunération complémentaire payée en heures supplémentaires. Alors était-ce justifié ou est-ce un détournement d'argent public? C'est ce que cherchent à savoir les enquêteurs de l'Office de lutte contre la corruption. Une affaire qui évoque bien sûr le cas Pénélope Fillon. Dans un communiqué, Gérard Collomb juge intolérable la diffusion de ces informations sur une enquête en cours. Il dénonce une tentative de déstabilisation à 10 mois des élections municipales.
Dans l'actualité judiciaire, encore le père de Laetitia Hallyday, André Boudou, en garde à vue à Béziers. Cela dans une enquête financière, c'est l'agence France Presse qui nous donne cette information. Comment reconstruire sur les ruines? Les Républicains sont au tout début du travail. Le rendez-vous du jour, c'est un déjeuner Wauquiez Sarkozy, dans le quartier où l'ancien président a ses bureaux, rue de Miromesnil. Et la haute autorité du parti, Les Républicains, se réunit pour débattre de l'élection du futur président. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
Vous avez rencontré ce matin celui qui occupe le poste par intérim, Jean Leonetti. Il a un souhait, c'est que les candidats à la succession de Laurent Wauquiez s'engagent à ne pas se présenter à l'Élysée.
Oui, une idée qui rompt totalement avec la tradition gaulliste, la tradition du chef très forte à droite, mais qui commence à faire son chemin chez les LR. Jean Leonetti y est plus que favorable et va essayer de trouver l'astuce juridique qui permette d'obliger les candidats à cet engagement avec un argument. Dans la situation actuelle, avec seulement 70 000 militants au compteur, le président du parti ne peut plus prétendre représenter légitimement la droite et le centre. Autre sujet à trancher sur lequel la haute autorité du parti va plancher dès cet après-midi, le calendrier. Selon les statuts, l'élection devrait être organisée cet été. À moins d'un cas de force majeure, là, le règlement interne prévoit un délai supplémentaire. C'est ce qu'espère Jean Leonetti, une élection en octobre. Une autre option est sur la table portée par certains poids lourds, une direction collégiale jusqu'au municipal. Certains me suggèrent de piétiner les statuts, confie Jean Leonetti, mais pour ça, il faudrait organiser un congrès. Et puis, qui aurait la légitimité d'être dans cette collégiale, se demande aussi le président par intérim, prévenant ses troupes. Une collégialité élargie, c'est la confusion entretenue, pas forcément de quoi rassurer les maires. Alors, respecter les statuts ou non, la haute autorité a 10 jours maximum pour rendre sa copie, qui devra encore être entérinée en bureau politique, a priori mardi ou mercredi prochain.
Et les échos de la rencontre Wauquiez-Sarkozy dans nos éditions ce soir. Merci Elodie Forêt. Peut-on discuter tout de suite après avoir sorti les fusils? Au Soudan, les généraux au pouvoir se disent prêts à des négociations sans restriction, mais les manifestants qui demandent le transfert du pouvoir à des civils les accusent d'avoir tué 60 personnes en tirant sur la foule à Khartoum ces derniers jours. Les forces de sécurité ont aussi mené des opérations dans d'autres quartiers, pas seulement près de leur QG, et même contre des hôpitaux. Reportage Sébastien Nemeth.
Aux urgences, des dizaines de patients déambulent. Tous sont des victimes venues du sit-in. Pourtant, même à l'hôpital, ils ne sont pas en sécurité. Mohamed Ibrahim Ouhadjer, fils d'un patient.
Hier, l'hôpital a été attaqué. Les militaires ont tiré. On a essayé de partir, mais ils nous encerclaient. Un médecin a été blessé. Des soldats sont entrés, mais je ne pouvais rien faire. Alors je me suis couché au sol.
Soudain, nouvelle alerte. Les militaires encerclent l'hôpital et sont entrés. Chacun tente de se cacher. Certains se barricadent dans les toilettes alors que dans le bâtiment, des inconnus circulent et tentent d'ouvrir des portes. L'alerte est levée, les soldats sont repartis, mais la scène se répète plusieurs fois, empêchant l'établissement de fonctionner. Sora Mafi a son père qui attend une opération du cerveau.
Je suis très inquiète, j'ai peur qu'ils entrent et tirent sur tout le monde, car personne ne peut les arrêter. En plus, le chirurgien de mon père ne peut pas accéder au bâtiment.
Dans cette situation chaotique, certaines bonnes volontés sont venues prêter main forte au personnel. Ahmed Rabadan s'est porté volontaire.
On a besoin de distribuer la nourriture aux patients, mais elle ne peut pas être livrée à la cuisine à cause des militaires. On a aussi des fractures, des traumatismes avec un besoin urgent d'opérer. Le Soudan se transforme en Syrie ou en Libye.
D'un coup, les militaires repartent sans explication. Des médecins rejoignent l'hôpital et commencent le travail, priant pour qu'il n'y ait plus d'intrusion.
Voilà pour ce reportage de Sébastien Nemeth au Soudan. L'actualité internationale, c'est encore en Russie aujourd'hui. Le chinois Xi Jinping chez Poutine, 30 ans après la répression de Tiananmen. L'objectif est de renforcer le partenariat économique Pékin-Moscou en pleine guerre commerciale Pékin-Washington. Les États-Unis qui durcissent les règles du commerce avec à peu près tout le monde. Une série d'avantages commerciaux dont bénéficiait l'Inde, par exemple, prennent fin aujourd'hui. Dans l'actualité économique, un rappel, si vous habitez dans les départements numérotés 50 et plus, y compris Outre-mer, il vous reste peu de temps pour remplir en ligne votre déclaration de revenus. C'est jusqu'à demain soir, 23h59. À qui doit aller l'argent versé sur la cagnotte pour Christophe Détinger, ce boxeur qui avait cogné des gendarmes mobiles lors d'une manifestation de gilets jaunes en janvier à Paris? L'homme a écopé d'un an de prison ferme, un an et demi avec sursis, il est désormais sous bracelet électronique. Des soutiens avaient mis en place une cagnotte sur internet, le site Litchi, 130 000 euros avaient rapidement été amassés et bloqués par Litchi. Alors à qui doit aller l'argent? C'était l'enjeu d'une audience ce matin au tribunal de Paris, Laurélie Carrive.
Si cet argent a été bloqué, c'est parce qu'il y avait des doutes sur la régularité de la cagnotte, explique Litchi. On a pignon sur rue, on doit respecter nos conditions générales d'utilisation, lance l'avocate qui représente la société. Plusieurs problèmes ici selon elle. D'abord, il a été demandé à ce que les 145 000 euros soient versés à la compagne de Christophe Détinger. Contacté par Litchi, l'initiateur de la cagnotte aurait aussi indiqué au téléphone que la somme devait servir à payer seulement les frais d'avocat. Et dernier point, une cagnotte ne peut venir cautionner des actes de violence. En face, l'avocate de Christophe Détinger rappelle que son client s'est excusé de son geste, qu'entre le boxeur et sa compagne, c'est le même portefeuille, et que sur le site de Litchi, la cagnotte était bien présentée comme un soutien à la famille. Karine Détinger est auxiliaire puéricultrice, le couple a 3 enfants, un prêt sur le dos. Or, le boxeur a passé 1 mois et demi en prison et fait l'objet d'une procédure disciplinaire à la mairie d'Arpajon. L'avocate des Détinger accuse Litchi d'obéir à une injonction politique. Moi, je veux bien qu'on n'aime pas Christophe Détinger, qu'on dise que cette cagnotte est immorale, mais on va pas commencer à faire du droit d'exception. prescription. Le juge rendra sa décision dans 2 semaines.
L'Aurélie qui arrive au tribunal de Paris. Allez, avant de reprendre notre émission spéciale, le plastique, non merci. Cette information que nous donnait Olivier Bénis dès ce matin sur France Inter. Les jeux vidéo vont avoir leur équivalent des Oscars ou des Césars. Ça s'appellera les Pégases. Première cérémonie au début de l'année prochaine.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvy.
Et c'est reparti pour cette édition spéciale Le plastique, non merci. Quelle solution ? Toujours avec nous Mathieu Combe, survivre au péril plastique, des solutions à tous les niveaux. Votre enquête était éditée aux éditions de l'Échiquier. Et puis nous a rejoint Laura Châtel. Bonjour Laura Châtel.
Bonjour.
De Zero Waste France, comment changer nos pratiques au quotidien ? Vous sauriez me dire ce qu'il y a l'un et l'autre de plastique ou en plastique dans ce studio de radio ? Il y a des micros, il y a des écrans, il y a une pendule. Alors d'habitude, je vais être honnête, hein, souvent j'ai une bouteille en plastique, là j'ai pris une carafe en verre. Qu'est-ce qu'il y a en plastique là-dedans ?
Bah, on voit les chaises, effectivement les micros, ce qui entoure les caméras, tout ouais. Ce qui est produit électrique, électronique, il y a souvent du plastique autour du produit, nos vêtements
les câbles,
sont
la
en
moquette,
partie en plastique.
Les câbles, la moquette, oui. On pourrait remplacer quoi là-dedans ?
On pourrait remplacer la moquette déjà.
Vous la trouvez moche, c'est ça ? On pourrait remplacer la moquette, donc ?
On pourrait remplacer les chaises en plastique. On pourrait remplacer le plastique sur la table.
Oui.
On ne pourrait pas remplacer les appareils électriques et électroniques, ça c'est sûr.
Ça coûterait une fortune à Radio France, sérieusement, si on devait remplacer tout ça pour essayer d'enlever un petit peu de plastique ?
Pour en enlever un petit peu, ça ne coûterait pas énormément plus cher pour tout ce qui est chaises, mobilier et pour le sol. Ce ne serait pas énormément plus cher.
Après, l'idée, ce serait aussi de le remplacer par soit des produits d'occasion, soit parce que quand on substitue du plastique par autre chose, c'est aussi de la consommation de ressources, c'est aussi d'autres impacts. Donc l'idée, surtout pour ces biens d'équipement en dur qui durent longtemps, c'est de plutôt d'acheter ce qui dure le plus longtemps possible, potentiellement d'occasion, etc. C'est aussi ce qui peut guider nos choix de consommation au-delà du plastique.
Au standard de France Inter, bonjour Malika.
Bonjour.
Votre solution à vous, quelle est-elle ?
Alors, nous, notre solution, depuis 2 ans déjà à la maison avec les enfants, on a diminué énormément ce qui est plastique jetable, comme les cotons de tige, les pots en yaourt. On fait nos yaourts maison maintenant.
Oui.
On s'est aussi mis à faire certains produits ménagers maison. Donc, on réutilise constamment le même bidon de lessive. Ce sont les enfants qui la font. C'est quelque chose de très facile. Mm-hmm. Mais alors, moi, je suis dans la campagne à Saint-Félix-le-Château, au sud de Toulouse.
Oui.
Et on a énormément de mal à trouver... des établissements proposant du vrac et principalement du vrac local. Donc moi, depuis 1 an, je travaille à la création d'une épicerie itinérante proposant en vrac ou en conditionnement vert des produits locaux et français. Voilà, pour retourner un petit peu à l'ancienne dans nos campagnes et redonner un petit peu de vie dans nos campagnes et aller à la rencontre des personnes un peu isolées et pour qui ce manque de produits vrac dans les campagnes est un frein à un changement de consommation.
Ça fait une pierre deux coups, plus de vrac et plus de contacts. Voilà. Merci beaucoup Malika pour votre témoignage. Alors ça, dans les messages qu'on a reçus, que ce soit sur le site ou que ce soit au standard, le vrac, ça revient beaucoup. Laura Châtel, il y a beaucoup de propositions, il y a beaucoup d'offres plutôt de vrac ou c'est encore limité ?
C'est encore limité, mais c'est en très très fort développement depuis quelques années. Il y a 5 ans, il n'y avait quasiment aucune épicerie 100% vrac. Aujourd'hui, il y en a plus de 200 qui ont ouvert un petit peu partout et on sait qu'il y a encore une centaine de projets pour cette année. Donc c'est un fort développement. Mmh. Effectivement, il y a aussi différentes offres, c'est-à-dire que vous pouvez en trouver dans les supermarchés bio, vous pouvez en trouver de plus en plus en vente itinérante, ambulante, sur des marchés. En fait, c'est une offre de vrac pour des produits secs comme le riz, les pâtes, etc., qu'on ne trouvait plus en vrac et qui aujourd'hui vient compléter d'autres commerces de proximité. Donc ce qui est intéressant, c'est que, comme le soulignait Malika, ça peut aussi faire renaître des commerces de proximité, des circuits courts. C'est quelque chose qui s'intègre bien dans une logique de transition écologique plus globale, on va dire.
Et de plus en plus de vrac dans nos supermarchés ?
Et de plus en plus de vrac également dans les supermarchés. Ouais, les grandes chaînes de supermarchés saisissent aussi l'occasion. Alors avec plus ou moins de réussite, parce que la vente en vrac, ça implique souvent quand même un petit peu plus de main d'œuvre aussi. Il faut guider le client, il faut nettoyer. Donc c'est pas forcément un modèle de vente qui est à l'origine adapté au modèle de vente en supermarché. Mais je pense que petit à petit, les grandes chaînes l'intègrent et se posent la question parce qu'il y a une demande très très forte du consommateur.
Mathieu Combe là-dessus ?
Oui, les grandes chaînes effectivement intègrent le vrac de plus en plus. Mais je pense que elles doivent revoir intégralement leur modèle de commercialisation. Et c'est pour ça qu'actuellement, le vrac qu'elles proposent n'est pas vraiment le vrac idéal. Si on regarde un petit peu plus loin, on peut voir qu'ils remplissent en fait avec des petits contenants.
Oui.
Donc, ce n'est pas vraiment le vrac idéal qui réduirait les déchets.
Oui. Là, ce que nous dit Sophie, par exemple, suggestion imposée aux grandes surfaces, la possibilité que les clients viennent avec leur propre boîte pour les achats au service. C'est un peu ce que nous disait la première auditrice tout à l'heure. Ça, c'est envisageable, réalisable?
Oui, il y a déjà une enseigne qui l'a lancée.
Oui.
On peut aller, par exemple... chez Carrefour.
Voilà. Trop tard, c'est cité.
C'est cité. Avec sa boîte réutilisable. Ouais. Il y a d'autres, certainement, qui vont le lancer prochainement, j'imagine.
Sandy, une intervention?
Non, non, j'allais dire, en effet, oui, ça se fait sur la base du volontariat pour l'instant. Il n'y a pas, c'est pas prévu d'obliger les grandes surfaces de le faire pour l'instant, enfin, de la part du gouvernement.
Ouais. Est-ce que c'est un élément de comparaison pour les consommateurs de plus en plus, le vrac, ces possibilités-là? Est-ce que les gens regardent et on vient de citer une marque et se disent, ah bah tiens, on va préférer cette marque à une autre parce que ça n'est pas proposé?
Je pense que oui, ça devient de plus en plus un choix. Alors que ce soit d'ailleurs la vente en vrac, la réduction, ou en tout cas savoir si l'emballage est recyclable, ça revient aussi régulièrement, il n'y a pas d'indication claire. Donc clairement, le sujet déchets, de manière générale, devient, je pense, de plus en plus un critère de choix. Et nous, on est très très régulièrement interpellés dans l'association par des gens qui sont choqués, mais même des clients par exemple d'enseignes de restauration rapide qui mettent les pieds à McDonald's ou à Burger King pour ne pas en citer qu'un, et qui sont de plus en plus révoltés entre guillemets ou indignés, donc ça progresse. Ouais.
On est en ligne avec Hélène MacArthur dans un instant, allez-y Sandy.
Oui, j'avais une question, est-ce que le souci en ce moment c'est pas qu'il y a une explosion d'étiquettes soi-disant écolo, tout le monde se revendique, tout le monde dit voilà, mon produit, il est écolo, il est nature, il vient de la terre, etc. Et que le consommateur s'y perd, en fait.
Si, complètement. C'est-à-dire que, évidemment, comme il y a une demande du consommateur, il y a aussi une explosion des labels
et de publicités mensongères.
Des affichages.
Aussi.
Vous avez des bouteilles végétales, par exemple, qui arrivent. Donc, globalement, le mot d'ordre, c'est méfiance. Et puis, surtout, rabattez-vous sur des choses assez simples. Hein. Quand il n'y a pas d'emballage tout court, c'est quand même globalement mieux. Plutôt mieux, etc.
Pour la qualité nutritive, il y a le Nutri-Score, auquel on sait qu'on peut se fier. Il y a l'équivalent pour le plastique, ou au moins la qualité de plastique plus ou moins recyclable, plus ou moins biosourcé, Mathieu Combes?
Non, il n'y a pas d'indication, il n'y a pas de logo pour dire vraiment, réellement, est-ce que le plastique est recyclable? Il y en a un, mais il n'est pas très vraiment utilisé. Il y a les consignes de tri, mais comme les consignes de tri sont variées suivant les communes, en fait, actuellement, il n'est pas très utile, ce logo.
Bonjour Hélène MacArthur.
Bonjour.
Un plaisir de vous entendre, deuxième du Vendée Globe Long 2001. Tiens, on ira au Sable d'Olonne tout à l'heure pour une initiative, mais c'est pour votre rôle à la tête de la fondation que vous avez lancée pour un avenir durable qu'on avait envie de vous entendre, pour la protection des océans. C'est évidemment un lieu clé, les océans, pour lutter contre la pollution plastique. Il y aura bientôt, je dis bientôt, 2050, plus de plastique que de poissons dans les océans, Hélène MacArthur?
C'est vrai, on a fait un grand... il y a 4 ans, pour essayer de comprendre les flux de matériel global et surtout autour du sujet des emballages plastiques.
Oui.
Mon fondation travaille autour du sujet d'une économie circulaire. Et dans une économie circulaire, on crée plus les déchets. On a plus des gaspillages. Tout ce qui est conçu pour l'économie, soit métal, soit plastique, est conçu pour être reconstruit ou conçu pour créer un flux. Donc on voulait savoir quels sont les flux de matériel autour le sujet d'emballage plastique, quels sont les montants, où ils vont, et on voulait vraiment de comprendre comment les emballages plastiques peuvent marcher dans le long terme, parce que à l'instant, comme vous avez bien dit, on va avoir plus de plastique dans les océans que poissons par 2050. On a 8 millions de tonnes de plastique qui va dans l'océan tous les ans, et il faut qu'on vraiment change le système.
Alors, la liaison saute un petit peu quelquefois. La piste, Hélène MacArthur, pour mettre en place cette économie circulaire, quelle est la bonne piste?
Le challenge, en fait, c'était que beaucoup de grandes marques qui créent ces emballages plastiques, ils trouvaient la solution. Ils voulaient une solution parce qu'ils savaient que leur plastique tombe dans l'eau ou marche pas dans un système. C'est pas quelque chose de recyclable. Mais le problème, c'est que toutes les grandes marques eux-mêmes peuvent peut pas trouver une solution. Il faut que le système le change. Et c'est ça qu'on a commencé de le faire il y a 4 ans. On a là maintenant 45 participants et 350 signatoires autour le Global Commitment qu'on a créé avec United Nations Environment Programme.
Et quelles entreprises, par exemple?
Ah bah les plus grandes marques comme Coca, Pepsi, en France on a L'Oréal, Danone, on a des gouvernements dedans aussi. La France inclut une de les gouvernements en tête avec un pacte autour de le plastique. Mais le but de tout cette Global Commitment, c'est de créer une situation qui marche pour les emballages plastiques. Et le problème aujourd'hui, c'est que la plupart des emballages plastiques qui sont créés pour garder nos nourritures frais, ils sont pas créés pour rentrer dans un système. C'est créé pour garder le poulet frais, mais c'est pas créé pour être recyclable.
Pour être en cercle. Et,
oui, ça marche pas en cercle.
Merci Hélène MacArthur. Merci Hélène MacArthur d'avoir pris quelques minutes pour dialoguer avec nous. Mathieu Combes, les océans, on parle souvent du continent plastique. Ce que vous dites dans votre livre, c'est que c'est plus compliqué que ça. Il y en a jusqu'au pôle, du plastique.
Il y en a jusqu'en Arctique, dans les glaces de l'Arctique. Et effectivement, en fait, il y a 5 continents de plastique. Il ne s'agit pas réellement de continents de plastique qui seraient constitués de pots de yaourt, effectivement, et de bouteilles où on pourrait accoster en bateau. C'est plus une soupe de plastique, un mélange de macro-déchets, donc de très gros déchets, et de micro-plastiques, soit des petits bouts de plastique de moins de 5 mm. Et les chercheurs ont également trouvé qu'il y avait des nanoplastiques, donc vraiment très très petits, inférieurs à 10 micromètres.
Alors allons-y, puisque Hélène MacArthur souhaitait impliquer les industriels, les entreprises dans cette histoire. Sandy, vous êtes allé en reportage chez Coca-Cola. Pourquoi avez-vous choisi Coca?
Eh bien, Coca-Cola vend en moyenne 31 bouteilles en plastique en France par seconde. Ça fait 1 milliard par an, donc autant dire qu'ils sont concernés par le problème. Le géant a pris un certain nombre d'engagements pour réduire son utilisation du plastique, alléger les emballages de quelques grammes par exemple. Et il promet aussi d'incorporer plus de plastique recyclé dans la fabrication de ces nouvelles bouteilles. Et pour y parvenir, Coca-Cola a investi dans une usine de recyclage en Bourgogne.
Alors ici, nous sommes à l'usine de Sainte-Marie-la-Blanche, dont l'objectif est de développer la filière du plastique recyclé de très haute qualité sur le marché français.
À l'entrée de l'usine, d'énormes balles de plastique compressées multicolores sont déchargées des camions. Lorsqu'on jette une bouteille en plastique dans le bac jaune, elle a de fortes chances d'arriver ici. Visite guidée avec Arnaud Roland, le directeur responsabilité sociétale de Coca-Cola Europe.
Cette usine, à elle seule, elle capte un tiers de toutes les bouteilles collectées en France.
Et pourtant, c'est insuffisant pour faire tourner l'usine. Le comble, il faut aller chercher des bouteilles en plastique usagées à l'étranger.
Aujourd'hui, clairement, on manque de bouteilles. Le gisement existe, mais comme 6 bouteilles sur 10 sont collectées simplement en France, il y a 4 bouteilles sur 10 qui ne rentrent pas dans cette filière du recyclage pour refaire de nouveaux emballages. On va les chercher pour partie en Allemagne et aussi un peu en Belgique.
Pour refabriquer une bouteille en plastique d'eau ou de soda, on ne peut utiliser qu'une seule famille de plastique, le PET, et encore, pas de n'importe quelle couleur.
La première machine va identifier les bouteilles trop colorées et donc les enlever du flux. On ne peut pas refaire une nouvelle bouteille avec une bouteille trop colorée.
Les bouteilles usagées sont ensuite broyées, lavées, chauffées, purifiées. Elles ressortent de l'usine sous forme de granulés pour fabriquer de nouvelles bouteilles. Ce plastique recyclé sera forcément mélangé avec du plastique vierge, explique Arnaud Roland, directeur chez Coca-Cola.
Aujourd'hui, c'est le cap sur nos bouteilles. 27% de plastique recyclé, le reste c'est du plastique neuf. Nous, notre objectif, c'est d'arriver à 50% de plastique recyclé dans toutes nos bouteilles au plus tard en 2025. Au-delà de 50%, on n'a pas le même degré de qualité au niveau de l'emballage.
Mathieu Combes, il y a différentes qualités de plastique. Au fond, on peut plus ou moins recycler le plastique. C'est ça qu'il faut comprendre.
Effectivement. Si on prend le cas des bouteilles, par exemple, dans l'usine de Coca-Cola, donc il y a le PET donc qui est transparent. Après, il y a le PET opaque, celui dans le...
ça, tout ça, c'est deux plastiques. Enfin, c'est un plastique.
C'est PET, un plastique, mais avec des additifs différents. En fait, il y a aussi le PET pour les barquettes.
D'accord.
Et il y a le PET pour des bouteilles qui peuvent être utilisées maintenant en cosmétique. Donc, une fois qu'on recycle tout ça, en fait, on a des mélanges.
C'est comme la pâte à modeler, en fait.
C'est comme la pâte à modeler. On a des mélanges avec des additifs différents. Et quand on fait fondre tout ça, en fait, ça donne un plastique de qualité moindre. Plus on a, à la base, un gisement qui est constitué exactement de la même bouteille, avec, par exemple, que la bouteille transparente, on aura un meilleur plastique en sortie recyclé.
Plastique biosourcé, qu'est-ce que c'est?
Plastique biosourcé, ça veut dire que c'est constitué à la base, à la
à partir de biomasse, c'est-à-dire de quelque chose qui est d'origine naturelle,
végétale,
animale ou de micro-organismes.
Si on développe ça, déjà, on fait un grand progrès.
Si on développe ça, on va avoir, au lieu d'utiliser du pétrole, du gaz ou du charbon, on utilisera une matière. On utilisera une matière d'origine naturelle. Donc, ce sera déjà une amélioration.
Le biosourcé, c'est la même problématique que les biocarburants. Si vous faites du biosourcé avec des déchets végétaux, c'est plutôt vertueux. Par exemple, des restes de bagasse de sucre, de canne à sucre. Si vous allez défricher à l'autre bout du monde pour faire pousser du maïs, pour faire du plastique biosourcé, l'empreinte écologique est un petit peu plus difficile à mesurer.
Laura Chatten.
Oui, non, c'est ça. Évidemment, le problème principal avec le plastique aujourd'hui, c'est la quantité consommée. Hein, et le problème, c'est qu'en plus, on en consomme toujours plus d'année après année. Donc, effectivement, les 13 bouteilles par seconde de Coca-Cola en France, si on les remplaçait par des plastiques d'origine végétale, on aurait un gros problème d'accès à la ressource végétale qui, certes, est renouvelable, mais renouvelable à un certain rythme. Donc on...
D'ailleurs, je voudrais juste ajouter que Coca n'a renoncé au biosourcé parce que ils s'étaient posé la question, hein, et ils ont dit bon, on laisse tomber le biosourcé parce que ça crée une confusion dans l'esprit du consommateur. Biosourcé, il a l'impression qu'il peut la balancer dans la nature et que ça va revenir à la nature, en fait. Ce qui est pas le cas.
Mathieu Combe.
Il faut savoir que sur la production totale de plastique, il y a uniquement 1% de biosourcé.
D'accord.
Donc là, majoritairement, c'est du gaz, du pétrole et du charbon.
Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, Coca, pour améliorer leur bilan plastique? Vous avez posé la question à celui qui est chargé des questions environnementales chez Coca, Arnaud Roland.
On réduit notre usage de plastique. Depuis 10 ans, on a éliminé 19 000 tonnes de plastique sur toute notre chaîne, principalement en allégeant le poids de nos contenants. On allège les bouteilles, on allège les bouchons, et en accélérant sur l'utilisation de plastique recyclé, on réduit aussi notre empreinte plastique de base.
Mais pourquoi ne pas passer au tout vert ?
Parce que si on faisait ça, on augmenterait significativement l'empreinte carbone de nos produits. Parce que le verre, il a beaucoup d'avantages, mais il est aussi beaucoup plus lourd en termes de transport, en termes d'énergie. Et donc, ça ne nous paraît pas une option satisfaisante.
Et au téléphone de France Inter, à présent, nous sommes avec Benoît Hainaut de la Fédération de la Plasturgie. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Votre solution à vous, au fond, pour améliorer votre bilan plastique, quelle est-elle?
Alors, on a d'abord, je pense, une clarification à faire, c'est que il ne faut pas confondre plastique et déchets plastiques. Je pense qu'aucun déchet, quel que soit le matériau d'ailleurs, ne doit se retrouver à l'extérieur, une fois arrivé en fin de vie, à l'extérieur de l'utilisation, que ce soit dans les océans, dans les campagnes. Et donc, il est excessivement important pour nous tous, je dirais pour tous les citoyens, mais pour nous de façon encore plus particulière au niveau de nos activités de la plasturgie, d'être en mesure d'organiser un cycle de collecte, un cycle de recyclage, et ensuite, pour vraiment fermer l'économie circulaire dont parlait Hélène MacArthur il y a quelques moments, de réintégrer en effet ces matières recyclées dans les produits finis pour leur donner une nouvelle vie. Donc ça, c'est un point très important. Et sur ces trois dimensions de l'économie circulaire, on a fait beaucoup d'étapes. Quand je dis « on », simplement pour préciser aux auditeurs, on parle en fait d'à peu près 5000 petites et moyennes entreprises. Il y a quelques grandes entreprises, mais c'est surtout des petites et moyennes entreprises qui transforment le plastique.
C'est ça, pour dire les choses. Vous, on parlait tout à l'heure de Coca, alors il n'y a pas que Coca dans la vie. Quand une entreprise a besoin de plastique, elle se tourne vers vous et vous le fabriquez.
C'est exact.
Voilà,
c'est exact.
Une bouteille, une barquette, une chaise.
Voilà, okay. Alors pour simplifier, nous avons quatre grands domaines d'activité. Les emballages dont on parle beaucoup, parce que certains d'entre eux sont à usage unique. Et une bouteille, par exemple, fait partie des emballages.
Et on ça, a ça vous êtes d'accord, Monsieur Hainaut, que ça, il faut supprimer assez rapidement?
Je pense qu'il faut rendre le plus difficile possible qu'une bouteille en plastique se retrouve jetée n'importe où, dans un océan, dans une rivière ou n'importe où dans la nature. Ça, on a les moyens de le faire, et on appelle vraiment toutes les forces en présence à le mettre en place pour que, par exemple, quand on est en itinérance, vous savez, on est en week-end, on est en pique-nique, on a une bouteille et bien on la lance dans la nature. Ce n'est pas acceptable.
Monsieur
Hainaut, il faut qu'on la récupère parce que cette bouteille, en fait, ce n'est pas un déchet, c'est quelque chose qu'on peut récupérer et réutiliser.
Mathieu Combe a une question pour vous.
Oui, effectivement, il ne faut pas confondre déchets plastiques et plastiques, on est d'accord, mais dans le monde, il faut savoir que uniquement 15% des déchets plastiques sont recyclés. En France, c'est 22%. Donc comment on fait pour s'engager justement pour que le plastique en fin de vie pose moins de problèmes?
Absolument. Vous avez complètement raison. C'est un changement de mentalité, hein, pour dire clairement les choses. Aujourd'hui, on peut avoir le sentiment, je reviens sur l'exemple de la bouteille en plastique, puisque c'était un peu le fil rouge, de faire quelque chose de bien quand on prend la bouteille en plastique et qu'on la met, par exemple, dans une poubelle au tout venant, ou voire dans une déchetterie. Ce n'est pas une bonne idée. Il faut en effet la mettre en tri dans la poubelle jaune, parce qu'à ce moment-là, elle va être recyclée. Tout ce qu'on ne trie pas va être perdu et on ne va pas pouvoir le réutiliser.
Donc on ne réduit pas la consommation, on trie, c'est ça votre message ?
Je pense que ça a été dit et c'est très important. Le plastique a également des bénéfices. On parle beaucoup des problèmes du plastique et c'est normal, je comprends parfaitement ça. Pourquoi est-ce qu'on a tellement de plastique ? Parce que le plastique apporte des bénéfices. Quelle est la substitution au plastique ? On a parlé de l'empreinte carbone. En effet, un des arguments les plus importants, c'est que le plastique est léger. Et par cette légèreté, il permet de réduire la consommation, que ce soit d'une voiture parce qu'elle a plus de plastique, que ce soit d'un avion, d'un train, peu importe le moyen. On va, en mettant plus de plastique, par rapport à d'autres matériaux plus lourds, réduire l'empreinte carbone. Et généralement, ce ne sont pas les produits qui se retrouvent dans ces différentes solutions de transport qu'on va retrouver dans les océans.
Merci Benoît Hainaut d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions. Ce que dit Benoît Hainaut est vrai. Laura Châtel, il y a des domaines où on ne peut pas se passer de plastique. Brune Poirson, qui était l'invitée de France Inter ce matin, citait les hôpitaux. Quand vous avez des perfusions, on ne peut pas se passer de plastique, par exemple.
Oui, alors après c'est un petit peu dommage de toujours dévier le débat autour de la réduction du plastique à des applications très très précises où personne n'a jamais demandé à ce qu'on supprime le
les
plastique.
Les seringues en plastique, par exemple.
Voilà. Je pense qu'on va pas revenir à la seringue en inox, on est d'accord là-dessus. Moi, je pense que le vrai problème avec le plastique aujourd'hui, c'est qu'il est beaucoup synonyme d'usage unique. Et là, quelque part, le plastique et le déchet plastique se confondent quand même un petit peu, puisqu'il a une durée de vie tellement faible qu'il devient presque immédiatement un déchet que ensuite notre société ne sait pas trop comment gérer. Donc là, le problème avec le plastique, c'est qu'on est vraiment dans cette confusion. La matière devient très très vite déchet. Hein.
Mathieu Combe, on retourne au standard ensuite. Et Marie-Josée, si elle est toujours au standard.
Dans les océans, on dit que c'est 80% des déchets qui sont en plastique et plus de 50% de ce plastique est à usage unique. Donc c'est vraiment l'usage unique qui est problématique.
Est-ce que Marie-Josée est avec nous au standard ?
Elle est là.
Elle est là. Bonjour Marie-Josée, vous nous appelez de Bagnères-de-Luchon. Nous vous écoutons.
Voilà, j'achète volontiers dans ma grande surface des fruits et des légumes bio. Malheureusement, ils sont tous dans des emballages plastiques. Ceci pour les différencier des produits plus ordinaires, mais je trouve ça absolument incompatible.
Sandy Dauphin, réponse.
Alors, c'est vrai, et c'est malheureusement la réglementation qui est comme ça, c'est-à-dire que pour éviter la gruge, je cherche un mot plus...
La triche.
La triche, merci. Pour éviter la triche, on est obligé de distinguer les fruits et légumes bio des autres. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution ? La facilité, c'est hop, un petit coup d'emballage plastique. Il y a quand même eu tellement de gens qui ont râlé que ça commence à bouger et qu'on voit par exemple, il y a le pacte, en effet, il y a un pacte emballage qui a été signé entre le ministère de l'Environnement et des grands groupes. Il y a des efforts pour remplacer cet emballage. C'est lent, hein. Mais par exemple, je cite juste rapidement.
Allons-y.
Un concombre, le concombre bio en plastique, l'autre jour, on en a vu avec une petite bandelette en papier autour pour signifier que, pour le distinguer du concombre pas bio. Donc ça avance.
Yves, au standard de France Inter, vous nous appelez de Saint-Nazaire. Bonjour Yves.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
France Inter, oui. La question, moi, c'était plus une réflexion, c'est que on culpabilise beaucoup le consommateur actuellement, depuis un certain temps déjà, sur les problèmes d'écologie, et c'est normal, mais quelque part, il y a un législateur et qui devrait légiférer pour interdire l'emballage de l'emballage. On nous culpabilise, je dis bien. Alors, on parle beaucoup des plastiques à usage unique, évidemment que c'est quasiment la caricature, mais au jour d'aujourd'hui, la durée de vie d'un produit manufacturé, il peut être usage unique, mais qu'est-ce que l'usage unique ? L'usage unique, est-ce qu'il est sur quelques secondes ou quelques mois ? Et au jour d'aujourd'hui, il est plus facile de changer son aspirateur, par exemple, parce que je vois mon aspirateur parce que je suis dans mon atelier, il est plus facile de changer mon aspirateur et moins coûteux de changer mon aspirateur qui fonctionne mais qui a un problème technique que de le faire réparer. Donc on est dans une société où on consomme, on gagne plus d'argent à acheter et revendre que de réparer. Et quand j'entendais tout à l'heure le monsieur qui parle de plastique et qui faisait partie de la plastugerie, j'ai l'impression que c'était un lobbyiste, hein, parce qu'il parlait, il disait des choses, mais en fin de compte, il défendait sa corporation. Et évidemment que dans le commerce et dans la guerre économique qu'il y a dans le monde, le seul qui peut, c'est pas le consommateur. Le consommateur, il peut, mais individuellement, il va faire des efforts, mais c'est pas lui qui va changer la face du monde. Il faut qu'il y a une prise de conscience pour éviter de consommer du plastique, parce que le consommer, le recycler, c'est bien, mais le recycler, ça a aussi un bilan carbone.
C'est pas toujours terrible. On a compris votre message, Yves. Moi, ce que je retiens de l'appel d'Yves Laura Châtel, c'est deux choses. Un, on nous culpabilise, et petit deux, on nous propose pas les solutions qui nous permettraient d'être vraiment efficaces.
Oui, non mais l'auditeur a raison, c'est-à-dire que le changement de comportement individuel est important, mais on ne résoudra pas le problème uniquement avec ça. On a besoin de vraies politiques publiques, des exemples très simples, vous parliez tout à l'heure il y avait une auditrice qui disait « il n'y a pas de pots de yaourt consignés dans mon supermarché ». Effectivement, les pots de yaourt consignés aujourd'hui, consignés réutilisables, on n'en a plus. Mmh. Il faut reconstruire des vraies filières, ça veut dire une unité de lavage, ça veut dire adapter la réglementation, ça veut dire tout ça en fait, aujourd'hui aussi supprimer le jetable. Et ça passe aussi par des vraies politiques publiques de réduction des emballages, fixer des quotas aux entreprises, ne pas passer d'ailleurs uniquement par des pactes volontaires. Hein. Notre gouvernement aime beaucoup ça, mais malheureusement, ça ne suffit pas de signer des pactes avec Coca-Cola ou Danone. Il faut aussi un moment imposer. Un exemple très concret, la restauration rapide. Il faut interdire aux chaînes de restauration rapide de servir dans du jetable pour les repas pris sur place. Je veux dire, le client n'est pas contre ça. Le client serait sans doute ravi de manger son hamburger dans une assiette. Donc, c'est des petites mesures qui sont faciles à mettre en place.
Je voulais juste dire qu'en effet, il ne s'agit pas de culpabiliser le consommateur, mais que le consommateur a un énorme poids. Et c'est bien parce qu'il y a une prise de conscience chez le consommateur que toutes ces grandes enseignes sont en train de changer ou tenter de trouver d'autres solutions.
François au téléphone de France Inter. Bonjour François.
Bonjour.
Alors vous êtes chercheur spécialisé dans les matériaux biodégradables, si je ne me trompe pas. C'est bien ça?
Exactement.
Que souhaitiez-vous dire?
Dans un laboratoire académique à Montpellier,
oui.
Effectivement, on travaille sur les matériaux biodégradables et la valorisation des déchets agricoles ou de l'agroalimentaire. Je voulais intervenir au sujet d'une directive européenne qui a été validée, qui a été votée au mois de mars sur les plastiques à usage unique, dont parlait justement vos intervenants. Donc, l'interdiction des plastiques à usage unique qui devra être appliquée en 2021 jusqu'à 2027. Or, vous savez qu'il y a une retranscription en droit national qui doit être faite.
Oui.
D'ici là. Donc, en fait, le problème est que cette directive interdit tous les plastiques à usage unique, donc aussi les plastiques biodégradables ou compostables, qui, par définition, sont à usage unique. Et du coup, en fait, quand on regarde un petit peu, on se rend compte que ça fait la part belle uniquement au recyclage et que seul le recyclage sera considéré comme la solution.
Alors, il y a des désaccords en studio par rapport à ce que vous dites. Qui veut intervenir?
Non, la directive européenne n'interdit pas tous les produits plastiques à usage unique. Elle en interdit
une dizaine,
voilà, les pailles, certains contenants en polystyrène, etc. Je pense que ce qui pose là plutôt problème à notre auditeur, c'est qu'effectivement la directive européenne a défini comme un produit plastique à usage unique également les produits dits en bioplastique, c'est-à-dire des produits qui seraient compostables. Cela dit, ces produits-là sont effectivement quand même des produits plastiques qu'il faut gérer dans des filières bien spécifiques. Donc c'est pas un hasard et à mon avis c'est pas une erreur de la Commission européenne de l'avoir inclus dans la définition.
Mathieu Combes, qu'est-ce qu'un éco-organisme ?
Un éco-organisme, c'est un organisme qui est en charge de collecter de l'argent de la part des marques pour financer en fin de vie la collecte de leurs déchets.
Est-ce qu'ils font bien leur travail ?
Alors,
Je vous dis ça parce que Brune Poirson, ce matin, sur l'antenne, la secrétaire d'État à l'écologie sur France Inter,
a tapé du poing sur la table.
Voilà, appelé à mettre un peu plus la pression, voire à quasiment instituer un système de bonus-malus.
Alors, quand on sait qu'il y a 22% du plastique qui est recyclé en France, on peut se poser la question, effectivement, est-ce qu'ils font intégralement bien leur travail? Je pense que la réponse est non. Et est-ce que c'est uniquement de leur faute? Je ne pense pas. Il y a effectivement aussi les gestionnaires de déchets, les recycleurs, parce que, tout simplement, ils manquent de filières. Ils manquent de filières pour un grand nombre de plastiques. Les industriels, effectivement, reprennent toujours l'exemple de la bouteille d'eau, parce que c'est le plastique qui est le mieux recyclé en France. Mmh. C'est une bouteille sur deux, donc c'est pas non plus excellent. Et il y a des filières, par exemple, pour les pots de yaourt, pour les films, tout ce qui est film plastique, qui n'existe pas encore. Donc, on les met dans la poubelle de tri, mais à la fin, on va les valoriser énergétiquement, tout simplement. Autrement dit, on va les incinérer.
Allez, un dernier passage au standard pour conclure cette émission spéciale et une initiative sur le terrain. Bonjour Dominique Jaouen.
Bonjour.
Vous appartenez à l'association Tous dans le même bateau au Sable d'Olonne. Et le pari que vous faites, c'est qu'il n'y ait plus de paille en plastique à usage unique pour la saison au Sable d'Olonne cet été, c'est bien ça?
C'est exactement ça.
Alors comment allez-vous faire? Vous allez mettre un fusil sur la tempe de tous les restaurateurs?
Non, les restaurateurs et cafetiers sont des acteurs de ce défi,
oui.
Qui ne pourraient pas exister sans eux.
Bien sûr.
C'est certain. En fait, la paille plastique, on est tous d'accord pour dire que ça ne sert pas à grand-chose, que ça a une durée de vie très courte et qu'elle crée beaucoup de pollution. Donc, l'ambition, c'est de supprimer progressivement la paille plastique de tous les bars et restaurants des Sables d'Olonne, et pour les réfractaires ou pour par exemple des cocktails, puisque c'est souvent un argument qu'on entend, l'association propose éventuellement des pailles en carton, mais s'ils ont d'autres solutions vertueuses, ils peuvent aussi les utiliser.
Et les restaurateurs sont partants?
Oui, d'une manière générale, à part sincèrement, là aujourd'hui nous avons 65 restaurateurs et hôteliers qui participent. On a depuis que la conférence de presse a été donnée hier, on a de nouveaux partenaires. Il n'y a que deux personnes qui nous ont dit ne pas vouloir participer à l'opération. Les autres sont enthousiastes parce qu'ils y réfléchissaient depuis longtemps, parce que mine de rien, c'est quelque chose qui va être imposé. C'est l'interdiction, c'est pour 2021, donc il faut y penser dès aujourd'hui. Et pourquoi on le fait à partir de cet été? Parce que justement, un amendement à la loi PACTE, oui, a fait que l'interdiction qui était envisagée en 2019 a été reportée en 2021.
Et donc vous prenez de l'avance.
Voilà, exactement.
Vous prenez un peu d'avance. Merci beaucoup d'être intervenu au téléphone et saluer le remblai des Sables d'Olonne pour moi. La journée Le Plastique, non merci, continue sur France Inter et franceinter.fr en partenariat avec Combini. Le prochain rendez-vous à la radio, c'est dans quelques minutes dans La Tête au Carré de Mathieu Vidard, autour du thème plastique et enfants, danger et bonne pratique. La prochaine émission interactive, ce sera le téléphone sonne de Fabienne Sintès, évidemment, comment déplastifier mon bureau. Et sur franceinter.fr, beaucoup, beaucoup de choses, quiz, reportages, interviews, chroniques, programmation très riche. Une fois de plus, merci Mathieu Combes d'être venu en studio. Je rappelle la référence de votre livre « Survivre au péril plastique, des solutions à tous les niveaux ». C'est chez Rue de l'Échiquier et on peut vous lire également sur le site naturascience.com. Et merci Laura Châtel, Zero Waste, d'avoir participé à cette émission. Merci Sandy Dauphin. Et allez donc sur franceinter.fr pour voir tout ce que vous propose notre rédaction web. L'édition spéciale continue. La journée spéciale continue après 14h. J'ai encore quelques informations à vous donner d'abord. Et les quarts de finale de Roland-Garros, suite cet après-midi, Djokovic va-t-il rejoindre Nadal et Federer en demi-finale? Il affronte l'Allemand Alexandre Zverev. L'autre quart, Dominic Thiem, finaliste l'an dernier, 11e mondial face à lui, Karen Khachanov, à qui la France réussit plutôt bien. Comme chaque jour, un auteur en course pour le prix du Livre Inter avec Eva Bétan. Aujourd'hui, Sarah Chiche, l'auteur des Enténébrés aux éditions du Seuil. Histoire d'une passion amoureuse, enquête sur plusieurs générations. Une famille prise dans les tourments de l'histoire et au milieu, une femme qui s'appelle Sarah. Écoutez Sarah Chiche parler de son livre avec Eva Bétan.
Une famille, au fond, c'est un grand orchestre, parfois très dissonant. Et comment est-ce que tout cela résonne en nous? Chacun d'entre nous est hanté et traversé par les fantômes de ceux qui nous ont précédés, de ceux qui nous ont fait souffrir parfois.
La personne qui nous guide, à un moment donné, alors qu'elle est adulte, revoit l'enfant battu qu'elle a été.
Ce que je voulais raconter, c'est comment est-ce que pour moi, très sincèrement, l'écriture, c'est vraiment le triomphe par rapport à ce qu'a pu être l'existence que j'ai connue d'une enfant cognée à mort et plongée dans le noir. Donc comment est-ce que les mots sont un triomphe moral? Il ne s'agit pas de réparer par l'écriture, mais de transmettre ce que c'est que la joie brûlante de vivre. Je voulais m'adresser aux lectrices et aux lecteurs qui ont pu vivre cela dans l'enfance, parce que les enfants qui sont victimes de maltraitance sont bien plus nombreux qu'on le croit. Et je voulais leur dire que, quelles qu'aient pu être nos douleurs, on peut tout de même s'en relever, continuer à aimer.
Vous mettez l'histoire intime d'une famille, et vous mettez le monde dans lequel on vit. Il y a l'histoire, il y a le nazisme, et il y a le traitement qui est fait aux réfugiés. Vous êtes très clair sur le comportement de la France, très critique.
Oui, je crois qu'aujourd'hui, quand on écrit, on doit très clairement avoir une position sur le monde. Et oui, je pense que nous traitons les réfugiés de façon assez basse. De même que, sur le plan intime, des choses peuvent se répéter de génération en génération. L'exil massif des réfugiés en gare de Vienne, en 2015, répétait de façon sidérante l'exil des personnes après la Seconde Guerre mondiale. Il y a, dans Les Enténébrés, l'idée que le temps est un cercle plat et que tout ce qui a eu lieu naguère et recommencera.
Sarah Chiche, auteur des Enténébrés en course pour le prix du livre Inter. C'est aux éditions du Seuil. Et nous revenons à Roland-Garros, les quarts de finale cet après-midi, si le ciel le veut bien. Djokovic-Zverev et l'autre quart de finale, Dominic Thiem, face à ce Russe à qui la France réussit bien, Fabrice Abgral, Karen Khachanov.
Il s'est révélé aux yeux du grand public en novembre dernier quand il a remporté contre toute attente le Masters 1000 de Paris-Bercy, obtenant là le plus prestigieux titre de sa jeune carrière. Karen Khachanov appartient à ce groupe de joueurs estampillés nouvelle génération. Et aujourd'hui, ce Russe né à Moscou il y a 23 ans en est l'un des leaders. Karen Khachanov, c'est d'abord un gabarit imposant, 1m98 pour 97 kg, un physique de déménageur au service d'un tennis tout en puissance. Khachanov, c'est une arme de destruction massive. Et face à lui, il faut s'attendre à être très sérieusement secoué. Jean-François Cojol est le directeur du tournoi de Marseille où Khachanov s'était imposé l'année dernière.
Khachanov, quand il rentre et qu'il voit que son coup droit, son revers et son service passent, tu te dis que jusqu'à la fin, pour l'adversaire, ça va être l'enfer, il va être roué de coups. Mais à côté de ça, il va rentrer un jour sur le court, il va prendre 2-2 contre un joueur qui est beaucoup moins bien classé que lui parce qu'il n'y a plus rien qui va rentrer et qui n'a pas de jeu de substitution. Ce que Djokovic sait avoir, ce que Federer sait avoir. C'est la différence.
Karen Khachanov va disputer son tout premier quart de finale en Grand Chelem et s'il franchit l'obstacle, alors là, il confirmera tous les espoirs placés en lui depuis ses débuts professionnels en 2013, alors qu'il n'avait que 17 ans.
Voilà pour ces précisions de Fabrice Abgral. Allez, c'est une journée sans plastique que nous vous proposons sur Inter, mais pas sans musique. Loin de là, nouveau concert exceptionnel ce soir, The Raconteurs, concert enregistré à l'Olympia le 26 mai dernier. Le groupe américain, composé de Jack White, l'ancien des White Stripes, et de Brandon Benson, sort un nouvel album à la fin du mois. Mathieu Culeron, attention, ça dépote.
La rencontre entre Jack White et Brandon Benson se fait autour d'une chanson, Steady as She Goes, qui devient immédiatement un tube. Et pour la première fois, la star, Jack White, partage son talent de compositeur.
Pour les Raconteurs, Brandon et moi, nous sommes les songwriters, un peu à la façon de Lennon et McCartney. Pour White Stripes, c'est moi qui écris tout, et pour mon travail solo également. Et donc cette collaboration dans la composition, c'est génial.
Le nouvel album des Raconteurs sort le 21 juin prochain, un disque qui s'ouvre sur une chanson où Jack White a dû mettre son ego de côté.
Born and Raised, c'est un titre que l'on n'aurait peut-être pas terminé si le batteur, Patrick, n'avait pas insisté. Et il s'est transformé en quelque chose de formidable. Ça m'a rendu fier. J'étais pas d'accord avec lui, et regarde ce qui s'est passé. C'est ce qui arrive quand tu baisses la garde en collaborant avec d'autres gens. Par contre, je préviens, la prochaine fois, je tirerai.
Help Me Stranger, le troisième album de The Raconteurs, la puissance et la délicatesse d'un rock intemporel. If you call me, I'll
come running. Et le concert, c'est donc ce soir sur France Inter, entre 20h et 22h, le temps de ce jour.
La météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable. Créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Sébastien Léas.
Une perturbation pluvieuse glisse lentement sur le pays et s'étend cet après-midi entre les Pyrénées, le Poitou, le Berry, l'Île-de-France et le Nord-Pas-de-Calais. Et les pluies peuvent être soutenues et même orageuses cet après-midi. Entre la Basse-Normandie, la Bretagne et les Pyrénées-Atlantiques, le ciel est souvent nuageux et des averses circulent. Sur les régions de l'Est, soleil et belles éclaircies sont plus présents, avec un ciel plus dégagé entre la Provence et la Corse, ainsi qu'en Alsace. En revanche, en milieu d'après-midi, une dégradation est attendue avec des averses et des orages. Les orages pourront continueront à être forts, porteurs de grêle et s'accompagner de violentes rafales de vent. Météo France a d'ailleurs émis une vigilance orange sur le nord-est qui est valable jusqu'à ce soir minuit. L'air chaud résiste sur la moitié est avec des maximales grimpant entre 26 et 33 degrés, mais sous la pluie à l'ouest, ne prévoyez pas plus de 14 à 20 degrés.